Chapitre 7. Dans la petite crique, près de laquelle s'élevait la maisonnette d'Yves Gouaise, Alain de Pinvalas, pendant ses séjours à Runesto, amarrait la coquette barque à voile qu'il appelait la Marie-Antoinette, en souvenir de sa mère. Élève du vieux marin, il manœuvrait en vrai Mathurin, disait Yves avec admiration, et commençait de connaître presque aussi bien que son professeur les passes qui permettaient d'éviter les dangereux écueils. Or, le lendemain, lundi, en rentrant d'une longue promenade sur la mer, baignée d'un ardent soleil d'août, le vieillard et le jeune châtelain, en approchant du petit ponton, y aperçurent une toute petite fille en tablier blanc qui les regardait. Yves fit observer. « C'est la petite de Kéréven, une bien jolie mignonne. Mais qu'est-ce qu'elle fait là ? On ne devrait pas la laisser aller toute seule. Ces petites demoiselles, ce n'est pas habitué à courir partout. Tenez, elle n'aurait qu'à faire un pas de plus et paf, la voilà dans l'eau. Si nous n'étions pas là, eh bien, ça serait fini d'elle, pauvre jolie. » Or, précisément à cet instant, Florita, pour mieux voir le bateau qui arrivait, avançait un peu, et elle perdit pied, tomba dans l'eau glauque, agitée de petites vagues. Alain eut un cri, auquel fit écho un juron du vieil Yves. Puis, le jeune homme, enlevant prestement son veston, sauta hors de la barque et se mit à nager vers le lieu où venait de choir l'enfant. La mer était heureusement peu profonde à cet endroit. Néanmoins, Florita, après s'être débattue un instant, venait de disparaître. Alain plongea rapidement, saisit la petite fille par sa robe et la remonta en lui élevant la tête hors de l'eau. Puis, entourant d'un bras le corps inanimé, il nagea vers le bord qu'il atteignit bientôt sans encombre. Yves, de son côté, avait promptement accosté. Quand il eut amarré la barque, il courut à l'endroit où Alain s'occupait de faire revenir à elle la petite fille. Il s'informa. « Elle vit, monsieur Alain ?»« Oui, oui, elle n'est pas restée longtemps sous l'eau, grâce au ciel. »« Tiens, la voilà qui revient. Ses lèvres remuent, ses paupières se soulèvent. » Emportons-la promptement chez elle pour qu'on la change de vêtements sans tarder. » Quelques minutes plus tard, les sauveteurs arrivaient à la porte de Kéréven. Ils se heurtèrent à la nourrice qui sortait, la mine inquiète. À la vue de l'enfant pâle, toute ruisselante portée par ces étrangers, elle jeta un cri en levant les bras au ciel. « Seigneur, qu'est-ce qui lui est arrivé à ma petite? Elle est tombée dans la mer ?» Alain répondit « Oui. » Mais il n'y a rien à craindre, je crois, pourvu que vous lui enleviez très vite ses vêtements mouillés. Dites-nous où il faut la porter. Par ici, messieurs. Mais, et elle baissa la voix, ne faites pas de bruit, s'il vous plaît, parce que je voudrais bien que la pauvre madame ne sache pas. Elle est déjà si touchée par le malheur. Alain fit signe qu'il avait compris. Alors, la nourrice précéda le jeune homme et son compagnon vers une des chambres où Florita avait son petit lit près du sien. Quand ils eurent assis l'enfant sur une chaise, où tout aussitôt Augustine s'occupa de la déshabiller, ils quittèrent la maison, et Alain dit au vieil Yves, « Je rentre, vivement, pour me changer, moi aussi. Au revoir, Yves. Au revoir, monsieur Alain. Courez vite, pour ne pas prendre mal. » Alain riposta en riant, « Oh, rien à craindre, je suis solide. » Et il partit au pas de course, suivi de l'œil par le vieux marin qui murmurait. « Ça fera un fameux homme tout de même, brave, fort et bon. Ah, elle peut être fière de son petit-fils, madame la marquise. » En atteignant l'endroit où commençait le promontoire, Alain croisa Elsa, qui avançait d'un pas sans hâte, comme si elle venait faire là une simple promenade. Elle s'écria, « Comme vous êtes mouillé, monsieur, qu'est-il arrivé ?» Il répondit sans s'arrêter, « Je viens de retirer une petite fille de l'eau. » Elsa continua sa route. Elle longea la maison, et au même endroit où naguère l'attendait Ulrich Mühlbach, elle vit Pépita, debout, très absorbée, semblait-il, dans la contemplation de la mer. Madame Mühlbach se détourna, lui sourit, puis, après un rapide coup d'œil jeté autour d'elle, prit la fillette entre ses bras et l'embrassa très affectueusement. « Eh bien, petite espionne, comment cela va-t-il ? » Ce qualificatif amena un sourire de contentement sur les lèvres d'Elsa. « Oh, très bien, ma cousine, et je suis si contente de vous connaître. Moi aussi, mon enfant. Quelle singulière chose que les événements m'amènent précisément ici, près de toi, et en ce lieu qui fait l'objet d'un si grand intérêt de la part d'Otto. Voyons que je te regarde bien. Tu n'as pas une physionomie banale, petite. Ulrich avait raison de nous dire que tu serais jolie dans quelques années. Avec cela intelligente, paraît-il. Voyons, raconte-moi ce que tu as fait de bon depuis ton entrevue avec le cousin Ulrich. Succinctement, Elsa narra son existence à la pension Marchais, dit comme elle était sympathique à tous, et en particulier à Madame de Pinvalas. Pépita déclara « Il faut tâcher que cela continue, mignonne. Je dirai donc à mon mari que tout va bien pour le moment. Il t'a donné ses instructions, je n'ai rien à y ajouter. D'ailleurs, j'aurai une lettre de lui demain. Comme je ne pars que dans 2 jours, viens après-demain, vers cette même heure, si tu le peux. Au cas où Otto aurait quelque chose à te faire dire, je te le communiquerai. C'est entendu, ma cousine. Et reviendrez-vous bientôt ? Probablement, car je suis inquiète au sujet de ma sœur, très frappée par la mort de son mari. Alors, elle va rester ici, toujours ? Oh, toujours, ce n'est pas probable. Mais enfin, elle a pour le moment cette idée fixe que je ne veux pas contrarier. Si c'était possible, j'aimerais, Hilda, que tu fisses connaissance avec elle. Je suis ennuyée de la voir tellement seule. Tâche d'y arriver, par la petite Florita. Un jour, arrête l'enfant, parle-lui. Peu à peu, tu te prépareras ainsi une entrée. Oui, je le ferai, ma cousine. Si tu ne réussis pas avant mon prochain séjour, je m'arrangerai à ce moment-là pour te donner cette entrée. Maintenant, au revoir, enfant. À bientôt. Je suis heureuse de voir que tu ne parais pas malheureuse dans cette famille. Oh, pas du tout. Et je m'y ferai une bonne place, j'en suis sûre. La lueur traversant les yeux bleus frappa Madame Mulbar. En regagnant la porte du logis, elle songea. Étrange créature, cette Hilda. Je crois qu'Otto aura en elle une aide remarquable. Comme elle entrait dans la maison, Pépita rencontra la nourrice qui revenait de la cuisine, portant une boule d'eau chaude pour réchauffer le lit de Florita. En quelques mots, Augustine raconta l'accident, pendant que Madame Mulbar se penchait vers la petite fille, pâle, mais bien ranimée. Florita expliqua elle-même. C'est un vieux qui m'a porté, avec le jeune monsieur qui était près de la voiture, à côté d'une vieille dame, quand nous sommes sortis de l'église, Pépita demanda. Ce serait donc le jeune homme du château ? Augustine répondit, tout en bordant soigneusement le lit. Je ne sais pas, madame, peut-être bien. Le vieux marin, qui habite une bicoque pas loin d'ici, je l'ai vu en passant par là hier, l'appelait monsieur Alain, et il est tout mouillé, le pauvre jeune homme. C'était lui, bien sûr, qui a tiré de l'eau cette petite désobéissante. Madame Mulbar déclara. Il faudra vous informer près de ce vieux marin de la façon dont tout cela s'est passé, puis du nom de ce jeune homme, car on ne peut laisser un tel service rendu sans remerciement. Inès, dans sa chambre, n'avait rien soupçonné de cet incident. Mais on ne put le lui cacher, cependant, car l'enfant eut la fièvre dans la journée, puis délira un peu au cours de la nuit, en parlant du bateau, de la mer, du monsieur qui la tirait de l'eau. Madame de Valserre, que rien au monde maintenant n'intéressait en dehors de sa fille, témoigna d'une vive angoisse rétrospective. Puis, très inquiète, elle ne voulut pas quitter l'enfant de toute la nuit et ne s'éloigna qu'au matin, en voyant Florita reposée, très calme, le teint rosé. Ce même jour, Pépita reçut une lettre de son mari. En réponse à une question qu'elle lui adressait, il répondait « Je ne vois rien qui s'oppose à des rapports entre Runesto et Kerhéven. Au contraire, je juge favorable tout ce qui nous rapproche d'une de ces familles françaises de vieilles roches. C'est pourquoi j'approuve fortement Ulrich dans les conseils qu'il a donnés à Hilda. Qu'elle arrive par tous les moyens à se faire aimer de l'héritier des Pinvalas, qu'elle tâche de devenir sa femme. » Être servante, gouvernante dans une famille, c'est bien, mais être l'épouse, voilà qui est mieux encore. Et d'autant plus qu'on n'aura pas lieu de se défier d'elle, puisque Strube a pu se donner, et donner à sa fille, la nationalité suisse, grâce à ses papiers, si heureusement découverts jadis. Plus tard, j'indiquerai à Hilda quelques autres petites choses à essayer pour diminuer la vitalité morale chez tous ceux de cette race française qu'elle pourra atteindre autour d'elle, la façon de saper les principes qui ont fait la force de la France depuis des siècles. Ce sont des préparations fort utiles pour notre future victoire. Donc, ma chère amie, n'empêche pas Inès de lier connaissance avec les Painvalas, si elle en a envie. Tu me dis, mais cela ne peut-il être dangereux à un moment donné quand tu voudras utiliser Kereven? Je te réponds, non, je m'arrangerai pour que cette maison soit à nous dans peu de temps, d'une façon ou d'une autre, et les Painvalas n'auront pas de raison pour y venir mettre leur nez. Car Inès en aura vite assez, va, même avec le voisinage du château. Un hiver passé dans le lieu sauvage que tu me décris la guérira pour jamais de sa fantaisie. En conséquence, Madame Mulbar, dans l'après-midi, après avoir fait part à Inès de son intention, aussitôt approuvée, se rendit à Runesto pour exprimer au jeune châtelain toute la reconnaissance de la mère et de la tante de Florita. Alain ne se trouvait pas là, mais Pepita demanda à voir Madame de Painvalas et la pria d'offrir à son petit-fils ses remerciements les plus chaleureux. Puis elles parlèrent d'Inès, et Madame Mulbar s'étendit longuement, avec émotion, sur l'inquiétude qu'elle éprouvait en voyant sa sœur tellement abattue par son malheur. « Je suis vraiment, en la quittant, bien tourmentée de la laisser dans cet état, » ajouta-t-elle, « et de plus, elle veut absolument rester dans cette maison, si triste déjà en plein été, mais qui doit être inhabitable l'hiver. À peu près, je crois impossible vraiment que madame votre sœur y reste. C'est ce que je lui dis, mais elle ne veut rien entendre. Vous la trouverez sans doute plus raisonnable qu'entre une ou deux bonnes tempêtes lui auront fait connaître tous les agréments de Kereven. Il fallait le tempérament de fer de ces lointains occupants et leur accoutumance pour vivre là d'un bout de l'année à l'autre, sur cette avancée de roc exposée à toute la furie des vents. Les nerfs de cette jeune femme et ceux de l'enfant n'y résisteraient pas. Oui, l'enfant, à cause d'elle peut-être, ma pauvre sœur se décidera-t-elle. Cette petite Florita est désormais sa seule consolation. Je le comprends, elle est exquise, cette enfant. Heureusement que mon petit-fils s'est trouvé là à point pour empêcher un affreux malheur. Mais il ne faudrait pas qu'on la laissât se promener seule dans ces alentours dangereux. Elle avait échappé un moment à la surveillance de sa nourrice. C'est une petite créature si vive. Heureusement, elle est assez obéissante en général. Mais elle s'ennuie, la pauvre petite, dans cette grande maison triste. Et quand je ne serai pas là, je me demande ce qu'elle deviendra, entre sa mère si morne et la servante très occupée. Madame de Painvalas proposa. « Si je savais que ce fût agréable à Madame de Valserre, j'irais lui tenir un peu compagnie de temps à autre. Puis ma petite fille, quoiqu'étant plus âgée que votre mignonne nièce, se ferait certainement un plaisir de s'amuser avec elle, de l'emmener dans quelque promenade. » Madame Mulbar déclara que sa sœur serait heureuse, très heureuse, et qu'elle-même demeurerait toujours infiniment reconnaissante de tout ce que la châtelaine de Runesto ferait pour sa chère Inès. Elle ajouta, « Si votre petit-fils voulait bien vous accompagner dans votre première visite, madame, je suis sûre que ce serait une joie pour elle de le remercier, en même temps que de faire sa connaissance. » Pepita quitta Runesto, enchantée de l'accueil qu'on lui avait fait. En pensant que cette bonne madame de Painvalas s'occuperait de sa sœur, elle partirait après-demain plus tranquille. Mais Inès, quand elle parla de cette visite que la marquise avait promise très prochaine, parut fort contrariée, puis déclara qu'elle prétexterait une grande fatigue pour ne pas la recevoir. En réprimant son impatience, Pepita essaya de la raisonner. « Madame de Painvalas est une femme simple, excellente, qui te plaira beaucoup, ma chère enfant. Je ne veux voir personne. » Mais songe au moins à cette pauvre petite Florita qui s'ennuiera ici entre toi et Augustine. Au château, il y a une fillette fort gentille qui s'occupera d'elle. Puis ces Painvalas sont des cousins de l'enfant et peuvent lui être utiles plus tard. Voyant que cet argument paraissait toucher légèrement Inès, Madame Mulbar poursuivit son avantage. Et puis, ce ne serait vraiment pas bien d'agir ainsi envers la grand-mère de celui qui a sauvé ta fille. Sans doute viendra-t-il lui aussi, car je dis à la marquise que tu serais heureuse de lui exprimer toi-même toute ta reconnaissance. » Inès réfléchit un moment, puis répondit d'un ton lassé : « Soit, je les recevrai. »